Bonjour, c'est Maxime, l'hôte du Green Letter Club. Vous le savez, sur le Green Letter Club, on ne fait pas de pub ou de partenariat bizarre. Bref, on est 100% indépendant. Et pour le rester, on a besoin de vos dons. Alors n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce sur Tipeee, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Et pour se financer, on organise aussi des fresques du climat ou de la biodiversité et des conférences sur les questions climatiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. Un grand merci du fond du cœur et bonne écoute. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise du gaz en Europe. Tensions politiques, dangers climatiques ou effondrements industriels. La crise gazière avec la Russie bouleverse les approvisionnements énergétiques européens. D'où cette question, quelles sont les conséquences de cette crise gazière? Pour y répondre, nous recevons Marc-Antoine Eil Mazega, directeur du Centre Énergie et Climat de l'Institut français des relations internationales, ancien analyste à l'Agence internationale de l'énergie, où il concentrait ses recherches sur les questions gazières et pétrolières, en lien notamment avec la Russie.
Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour.
Première question, à quel point l'Europe dépend-elle du gaz? À quoi sert-il chez nous? Et quels sont les pays qui en consomment le plus?
Alors, l'Europe a un bouquet énergétique relativement diversifié, dans lequel on trouve évidemment des énergies fossiles et puis dans lequel on trouve des énergies bas carbone. Et parmi les énergies fossiles, bien sûr, c'est le pétrole qui domine, et puis arrive le gaz naturel et enfin le charbon. La tendance générale, c'est celle d'une réduction de la consommation d'hydrocarbures. Elle est relativement nette, mais elle n'est pas très forte. Donc on réduit très lentement, très progressivement notre consommation de pétrole. Quant au gaz, pendant longtemps, le gaz est resté en fait très dominant quand même dans un certain nombre de secteurs de l'économie. Alors bien sûr, pas dans les transports, à l'inverse du pétrole, mais beaucoup plus dans le secteur du chauffage résidentiel, dans le secteur de l'industrie et dans le secteur de l'électricité. Pourquoi dans l'électricité? Parce qu'en fait, une centrale à gaz, c'est un outil extrêmement flexible. En fait, on peut l'allumer et l'éteindre en quelques secondes pour réagir aux besoins du réseau. Et ça, ça fait la force du gaz naturel. L'autre force du gaz naturel pour le système électrique, c'est qu'on peut stocker ce gaz. Et donc, il y a de grosses capacités de stockage en Europe. Et donc, pour l'hiver, on a du gaz dans les stockages. Et quand il y a un refroidissement soudain ou, par exemple, qu'il n'y a pas de production d'énergie renouvelable parce qu'il n'y a pas de vent ou pas de soleil, eh bien, on peut turbiner du gaz dans les centrales thermiques au gaz. Et donc, on a une production d'électricité qui est comme ça, qu'on peut mobiliser très rapidement. Et donc, ça, c'est un atout pour le système électrique. Et dans l'industrie, ce qu'on oublie souvent, c'est que dans le monde entier, il y a finalement trois façons d'apporter de l'énergie à l'industrie. Et quand on parle d'énergie, c'est pour l'essentiel de la chaleur. Il y a évidemment le charbon, et y compris en Europe, on a encore des industries qui fonctionnent au charbon, par exemple dans l'acier, mais dans le reste du monde, c'est beaucoup plus prononcé encore, en Inde, en Chine, par exemple, ou en Asie du Sud-Est. Et puis, on a du gaz naturel. Il y a beaucoup de gaz naturel pour chauffer à plus de 1200, 1300, 1400 degrés. Et enfin, on a de l'électricité. Alors, généralement, on pense que l'électricité ne permet pas de chauffer et juste là pour alimenter des machines. En réalité, on peut aussi produire de la chaleur à haute température avec de l'électricité. Et dernier point, on a eu un peu de gaz naturel quand même dans le transport, et ça concerne essentiellement, par exemple, des flottes de bus, ou en Italie, par exemple, on a des flottes de véhicules particuliers qui fonctionnent au gaz naturel. C'est une typicité italienne qu'on retrouve un peu en Pologne, qu'on retrouve un peu ici-là, mais c'est relativement marginal.
Le gaz naturel représente 19% du mix énergétique en Europe, donc c'est important. 25% à peu près pour les ménages, justement, vous parliez du chauffage, 25% pour l'industrie et le reste pour la chaleur et pour l'électricité. Quels sont les pays en Europe qui dépendent plus fortement du gaz? Nous, on sait qu'on a un mix électrique, par exemple, on fait très peu d'électricité à partir de gaz. Quels sont les pays en Europe qui dépendent vraiment beaucoup du gaz?
Alors, le plus grand marché gazier européen, c'est l'Allemagne. Le second, c'est sans doute le Royaume-Uni. Alors, c'est plus l'Union européenne, mais ce sont nos voisins. Et puis, il y a des pays comme la France, comme l'Espagne, où finalement le rôle du gaz est un peu moins prononcé parce que en fait on a beaucoup plus d'électricité, par exemple dans les systèmes. L'Italie, c'est un cas un peu spécifique parce que les Italiens n'ont pas d'électricité nucléaire, ont quand même une densité de population très élevée, donc ça limite un peu leur capacité à déployer les énergies renouvelables. Et il y a beaucoup de gaz dans le système électrique italien et une très forte consommation de gaz concentrée dans le nord du pays, dans la partie nord du pays, où il y a toutes les industries et puis beaucoup de population. Et logiquement, il fait aussi un peu plus froid l'hiver, évidemment, que dans le sud de la péninsule. Alors, dans l'ensemble, en Europe centrale, on a beaucoup de gaz aussi, et là, en particulier dans les systèmes urbains. Et c'est aussi le cas de l'Allemagne. En Allemagne, vous avez une spécificité, c'est que les villes ont des réseaux de chaleur centralisés et ces réseaux de chaleur sont approvisionnés par du gaz naturel. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des Stadtwerke, c'est des entreprises municipales, comme on a à Strasbourg, pour ceux qui sont en Alsace, Électricité de Strasbourg. Ben, c'est un peu la même chose, une entité spécifique qui fournit et de l'électricité et de la chaleur et du gaz. Et tout cela à travers des conduites centralisées. Voilà un peu cet ensemble, mais un pays, par exemple, comme la France, on a un bouquet d'approvisionnement gazier extrêmement diversifié. L'Allemagne, qui ensuite a évidemment rencontré une situation de crise plus aiguë que la nôtre et dont on reparlera, elle avait fait le choix de dépendre énormément du gaz russe. Bien sûr, elle est aussi reliée au gaz norvégien, mais il y avait une singularité, par exemple en Allemagne, c'est qu'il n'y avait pas de terminal d'importation de gaz naturel liquéfié. Donc c'était le plus grand marché d'Europe qui n'avait pas de telle infrastructure. Et quand on allait discuter avec les responsables politiques allemands, vous savez, mais on n'a pas besoin puisqu'on a notre fournisseur russe qui est très fiable et puis on a notre fournisseur norvégien qui est très fiable et on est très interconnecté avec les Pays-Bas, qui était d'ailleurs jusqu'à il n'y a pas longtemps un producteur important et un exportateur important et qui a lui aussi des infrastructures d'importation de gaz naturel liquéfié.
On reviendra sur le cas de l'Allemagne, on va parler abondamment de la Russie. Simplement, la dépendance de la France par rapport au gaz, à quel point nous, en France, on est dépendant du gaz ?
Alors, il faut mettre les choses un peu en perspective. Par rapport à un pays comme l'Allemagne ou l'Italie, beaucoup, beaucoup moins. Maintenant, en hiver, pour passer la pointe hivernale, en fait, on a besoin de beaucoup de gaz. Et pourquoi ? Parce que quand bien même on a une partie du chauffage résidentiel et puis de la production d'eau chaude qui est à l'électricité, en réalité, on a des millions de consommateurs qui sont chauffés au gaz. Et c'est un héritage historique. À l'époque, on avait deux grandes entités publiques, Gaz de France et puis Électricité de France. Et on a décidé que la pointe électrique l'hiver, finalement, serait réduite et serait renforcée par le rôle du gaz naturel. Et donc, beaucoup de nos compatriotes ont des chaudières au gaz naturel chez eux qui apportent et la chaleur et de l'eau chaude. Et donc, en fait, quand bien même on a une consommation de gaz à peu près 40 milliards de mètres cubes par an, l'Allemagne, avant la guerre, c'était à peu près 90, donc vous voyez, deux fois moins. Eh bien, en hiver, on a besoin quand même de cet apport en gaz qui est très important. Et on a des stockages de gaz qui sont de très forte capacité en France pour justement permettre de faire face à cet hiver et donner une très forte situation de sécurité d'approvisionnement.
Alors, il y a un hiatus, justement, vous parlez de gaz naturel. Effectivement, c'est le terme qu'on emploie généralement. Or, le gaz, c'est d'abord du gaz fossile. Ça n'a pas grand-chose de différent du pétrole ou du charbon. Climatiquement, ça émet entre 1,5 fois moins et 2 fois moins que le pétrole et le charbon. Donc, c'est quand même moins nocif que ces deux énergies fossiles. En revanche, c'est d'un facteur, ça émet 10 à 50 fois plus de CO2 que les énergies bas carbone, les renouvelables et le nucléaire. Quelle est la place du gaz, justement, dans la transition énergétique ?
Alors, c'est une question, évidemment, très stratégique, et pour les uns, très sensible même, et pour d'autres, évidente. Et à la fois dans le sens que c'est un atout ou alors dans le sens où, en fait, c'est un problème et dont il faut se débarrasser le plus vite possible. Je crois qu'il faut faire la part des choses et regarder un peu ce rôle, effectivement, dans une perspective de séquençage de la transition qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'entends par là? La première chose, c'est qu'effectivement, vous le rappeliez, il vaut mieux avoir des centrales thermiques au gaz que des centrales thermiques au charbon, par exemple, pour produire de l'électricité. Maintenant, quand on regarde l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en gaz, il faut voir exactement où sont les émissions. Bien sûr, il y a les émissions lors de la combustion du gaz dans une centrale, et on turbine ensuite, et de la vapeur, et puis vous avez... évidemment, ensuite de la production d'électricité. Donc là, parce que vous brûlez du gaz, de fait, vous avez des émissions, mais vous avez aussi des émissions avant. Par exemple, s'il faut acheminer le gaz sur des méthaniers, parce que là, il y a une évaporation naturelle, parce que quand à chaque fois que vous branchez un méthanier sur votre réseau, etc., vous avez quelques pertes. Et puis, il faut voir évidemment l'amont, c'est-à-dire là où se situe la production. Et au niveau de la production, voire du transport, là aussi, vous avez des émissions. Et ça dépend où vous êtes, ça dépend de quel est l'opérateur, est-ce que c'est des gens très sérieux ou pas, et dans quel pays vous êtes, quelle est la réglementation dans ce pays, etc. Mais il y a un fait, et vous avez raison de le rappeler, c'est qu'une molécule de méthane émise dans l'atmosphère a un pouvoir de réchauffement global. Donc c'est ce qui nous intéresse, au fond, c'est ce qui nuit au climat. Qui est, alors ça dépend de la temporalité qu'on prend en compte, mais qui est sur le court terme, et nous, notre sujet, c'est le court terme, parce que c'est les 10 prochaines années, c'est là qu'on peut encore sauver la planète ou pas, et ce pouvoir de réchauffement sur le court terme, c'est 80 fois plus élevé qu'une molécule de CO2. Donc, effectivement, c'est dramatique quand vous avez des émissions fugitives, on appelle ça des émissions fugitives de méthane dans l'atmosphère. Maintenant, il faut quand même faire une distinction, c'est-à-dire que toutes les molécules fugitives de méthane qui sont perdues dans l'atmosphère ne viennent pas que de l'industrie des hydrocarbures. En fait, l'essentiel vient du secteur agricole. Et dans le secteur agricole, c'est quoi? C'est les animaux, mais c'est aussi l'ensemble des déchets organiques qui sont laissés à l'abandon. C'est les rizières qui émettent aussi du méthane, etc. Donc, voilà, il y a. Mais pourquoi est-ce qu'on met souvent on pointe du doigt à l'industrie des hydrocarbures? C'est parce que c'est sans doute la seule qui a les moyens d'agir très vite, très fort pour réduire ses émissions fugitives de méthane. Alors maintenant, il faut regarder par exemple l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Il vaut mieux transporter du gaz par un pipeline sous-marin, par exemple, sur des longues distances, que par un pipeline terrestre. Il vaut mieux transporter du gaz par un pipeline sous-marin que par rapport à un méthanier, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a moins d'émissions qui sont liées, moins d'émissions fugitives.
Un méthanier, c'est un grand bateau qui transporte du méthane.
Voilà, donc il transporte du méthane, il est refroidi en fait dans un terminal de liquéfaction. On descend la température à moins de 260 degrés. Le gaz passe d'un état gazeux à liquide. On peut le mettre dans des navires. Ça veut dire qu'en fait, son volume est réduit de 600 fois. Donc on peut mettre beaucoup de méthane dans ce navire. Et puis à l'arrivée, il y a un terminal dit de regazification. On chauffe le gaz et on le met dans les conduites. Alors, là où, évidemment, ça fait, par exemple, débat, c'est, finalement, est-ce que le producteur, la source de production, est-ce qu'elle est vertueuse ou pas? Est-ce qu'il y a des régulations qui sont en place pour forcer et vérifier que les producteurs n'aient pas de fuite, fassent les réparations nécessaires et des systèmes de vérification, de contrôle de leurs infrastructures? Ou est-ce qu'ils prennent ça à la légère? Mais ça, c'est tout le sujet actuellement. En Europe, on souhaite évidemment mesurer cette empreinte carbone du gaz naturel pour essayer de favoriser les sources d'approvisionnement les plus vertueuses et mettre la pression sur les autres. Maintenant, le problème, c'est qu'on est dans une situation d'insécurité d'approvisionnement. On n'a pas le choix du menu, entre guillemets. On a besoin de gaz, d'autant plus qu'on est privé d'une grande partie du gaz russe. Et évidemment, notre plus grand fournisseur de gaz naturel liquéfié aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Et aux États-Unis, l'industrie n'a pas encore fait patte blanche. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour obtenir les résultats dont on a besoin.
Oui, juste pour continuer sur ce point-là, alors j'ai regardé dans le rapport du GIEC hier, le gaz naturel représente 18% des émissions de CO2 dans le monde, donc c'est pas une paille, c'est tout de même important. Et aujourd'hui, ce qu'on arrive à voir, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'on arrive à voir par satellite justement ces fuites de méthane. Mais si je comprends bien de ce que vous dites, c'est qu'en résorbant ces fuites de méthane, l'impact sur le climat du gaz pourrait être beaucoup plus faible.
Absolument. Tout l'enjeu là, au cours jusqu'à 2030, c'est, si on veut éviter un réchauffement catastrophique de la planète, c'est d'agir sur trois volets, au fond, quatre. Un, c'est de réduire autant que possible la consommation de charbon. Deux, multiplier les énergies renouvelables. Trois, l'efficacité énergétique. Et quatre, réduire drastiquement les émissions fugitives de méthane. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez, en Europe, nos infrastructures sont très bien gérées, en parfait état de fonctionnement, etc. Maintenant, le problème, c'est l'amont, la zone de production, et effectivement ce transport. Alors, sur l'amont, on a effectivement un nouvel atout, ce sont ces nouvelles technologies qui se développent. Par exemple, les satellites qui, en mesurant la chaleur, etc., sont capables de détecter les super grandes fuites. Et ça, c'est très utile parce que, en fait, ces satellites parcourent le monde et révèlent ce qui se passe dans des pays où personne n'a jamais accès, c'est-à-dire le Turkménistan, le fin fond du Nigeria, la Russie, etc. Aux États-Unis, les choses sont un peu différentes. Quiconque peut aller à proximité des infrastructures de production de gaz et de pétrole, il y a des routes partout, etc. Et là, en fait, vous avez tout un tas d'associations, de personnalités, etc., qui sont munies de caméras thermiques et qui se promènent et qui, effectivement, découvrent tout un tas de fuites sur les infrastructures dont, jusqu'à présent, personne ne s'était occupé. Pourquoi ? Parce que, en fait, la vraie valeur du produit, entre guillemets, c'est le pétrole, c'est pas le gaz. Parce que souvent, le gaz, en fait, ne vaut pas cher, aux États-Unis, par exemple. Donc, personne ne s'est jamais vraiment intéressé d'aller colmater toutes ces fuites. Ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne comprenait pas, ou on ne savait pas, ou en tout cas, ceux qui savaient étaient une minorité, que le méthane était un vrai problème. Et puis, dernier problème, c'est que c'est celui de la régulation. C'est-à-dire que, aux États-Unis, vous avez des milliers de producteurs, la plupart sont là juste pour faire de l'argent. Pardon de le dire comme ça, mais l'environnement, c'est le dernier de leurs soucis. Et effectivement, leur système de production sont parfaitement inadéquats. Et donc, si vous n'avez pas un régulateur qui vient leur imposer des amendes, les forcer à faire des contrôles, etc., probablement qu'ils vont continuer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais la question, c'est quel est le degré de pression qui est mis. Donc là, il y a des amendes pour les fuites, mais qui va vraiment vérifier, etc., etc. Et là, ce qui se passe, c'est plutôt les lanceurs d'alerte, les ONG, etc., qui, en fait, font le travail de pression sur cette industrie-là qui est, il faut le dire quand même, trop lente à réagir.
Alors, on a brossé un panorama sur la dépendance européenne au gaz. Y a évidemment l'éléphant dans la pièce, c'est depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des tensions très fortes sur les approvisionnements en gaz. Avant 2021, si je ne dis pas de bêtises, il y avait 40 à 45% du gaz qui provenait de Russie en Europe. Pourquoi l'Europe s'est-elle liée tant que ça à la Russie ? Est-elle devenue si dépendante du gaz russe ?
Absolument. La Russie était le premier fournisseur extérieur de l'Europe. Et pendant longtemps, l'Europe avait une production intérieure relativement importante, notamment en mer du Nord, mais il y avait aussi beaucoup de gaz en Italie, en Allemagne. Mais cette production-là, elle, est en déclin irréversible, et tandis que la consommation de gaz, elle, a cru. Donc, pourquoi est-ce qu'elle a cru ? Parce qu'en Europe, on a cherché à réduire la consommation de charbon, et donc le gaz est un parfait substitut. On a aussi, en Allemagne, décidé de sortir du nucléaire et on a fermé des centrales nucléaires. Et donc, on a mis aussi plus de gaz ou utilisé plus de gaz dans le système électrique. Et puis aussi parce qu'on a eu une croissance économique forte. Et donc, dans l'industrie, il y a eu de la demande. Et évidemment aussi dans le secteur électrique. Et puis, pour le chauffage résidentiel, le gaz est un formidable outil pour se passer du fioul. Et les politiques publiques ont effectivement favorisé l'installation de chaudières à gaz à condensation, donc très modernes, très efficaces, mais du coup qui effectivement tirent la demande de gaz. Parce qu'à partir du moment où vous avez un réseau de gaz, donc c'est les grandes conduites, mais aussi au niveau local, les réseaux de distribution, et puis le réseau très, très, très local avec des petites canalisations, il faut l'utiliser au maximum pour finalement réduire ses coûts. Puisque les coûts fixes sont les mêmes, que vous ayez en gros 10 consommateurs ou 1000 qui l'utilisent. Donc Voilà un peu le parcours. Maintenant, d'un point de vue stratégique, qu'est-ce qui s'est passé ? Au début des années 2000, un nouveau chancelier est élu en Allemagne, Gerhard Schröder, avec une coalition dans laquelle sont les Verts. Il décide deux choses. Un, c'est que l'Allemagne va sortir du nucléaire, et évidemment les Verts y étaient très favorables, mais pas que, hein, ça faisait relativement consensus. Et l'autre, c'est d'utiliser une opportunité extraordinaire qui s'offre à l'Allemagne, c'est celui d'avoir un voisin, la Russie, dont le président Poutine a été élu en 2000, président, et le président Poutine veut un rapprochement et œuvre à un rapprochement avec l'Europe. Il veut développer son pays, il est plein d'hydrocarbures, et c'est un moment un peu charnière où, en Allemagne, la relation avec la France est très compliquée, parce que Jacques Chirac, au moment du sommet de Nice en juin 2000, vraiment tend cette relation au maximum. L'Allemagne a réintégré l'ex-RDA, elle a récupéré 12 millions d'habitants en plus, elle consent à un effort financier extraordinaire pour faire tout cela, et la France campe sur l'idée d'une parité politique en Europe, tant au Parlement européen que dans les différents votes à Bruxelles, etc. Et c'est vrai que les choses sont compliquées. Enfin, en Allemagne, on considère que le meilleur investissement pour la sécurité de l'Allemagne, c'est d'aller œuvrer à la stabilisation économique et politique de la Russie. Et la meilleure façon de faire, c'est de créer des interdépendances, puisque pendant la guerre froide, au fond, c'était déjà la stratégie du chancelier Helmut Schmidt, c'est finalement de nourrir l'interdépendance économique pour garantir la paix. Au fond, c'est l'idée que chacun a besoin de l'un de l'autre et que donc personne n'ira franchir le pas. Je vous rappelle quand même qu'en cas de confrontation avec l'Union soviétique pendant les guerres froides, les Allemands savaient que leur pays allait être détruit, puisque c'était le champ de bataille. C'était l'Allemagne, c'était pas ailleurs le champ de bataille, c'était là. Et donc, dans l'ADN allemand stratégique, l'idée d'un rapprochement comme ça avec la Russie fait parfaitement sens à ce moment-là. Et au fond, la Russie a des réserves colossales, et donc on construit et on prévoit les premières infrastructures pour renforcer tout cela. Et les relations entre Gazprom et les acteurs allemands sont excellentes. Et l'idée, c'est de dire, finalement, on a là un atout fondamental pour notre économie. On va avoir une molécule pas chère, très efficace pour nos économies, très fiable. Les Russes sont fiables. Pendant la guerre froide, quelle que soit la situation, et notamment les tensions qu'on a connues, la crise des missiles Pershing, etc., les Russes ont toujours, ou les Soviétiques ont toujours fourni. Et donc, c'est un atout pour l'économie allemande, tant économique que stratégique.
Pour se rendre compte à quel point l'Europe, et notamment l'Europe de l'Est, est dépendante du gaz russe, je vais prendre quelques chiffres. Il y a beaucoup de pays qui sont entre 80 et 100% de leur dépendance au gaz de la Russie. Je prends un exemple, la Slovaquie. 100% de son gaz venait de Russie, ce qui représentait 36% de son mix énergétique. Donc on voit que c'est gigantesque. Il y a d'autres pays, je pense notamment à la Pologne, par exemple, qui ont fait des choix différents. Il y a aussi, ça a été une volonté politique ou pas de se lier à la Russie ?
Alors, c'était en réalité, oui, il faut regarder l'héritage historique. Quel est-il ? La Pologne, par exemple, avait des ressources très abondantes en charbon, et donc le système énergétique polonais s'est surtout construit en réalité sur le charbon, pas sur le gaz. Et les Soviétiques n'ont jamais amené de canalisation de gaz directement en Pologne, parce qu'en fait, ils ne faisaient pas confiance à la Pologne. C'est pour ça aussi que ils n'ont jamais donné de technologie nucléaire civile à la Pologne. La Pologne, c'était un peu le maillon faible dans le pacte de Varsovie. Et d'ailleurs, les grands transfuges du pacte de Varsovie étaient polonais. L'autre grand transfuge, ou entre guillemets, le maillon faible, c'était la République tchèque, ou la Tchécoslovaquie à l'époque. Aujourd'hui, c'est deux pays distincts. Et là aussi, en fait, le rôle du gaz est plus réduit. Il y avait beaucoup de charbon, donc on a mis aussi beaucoup de charbon. Mais par contre, eux ont été dotés de centrales nucléaires. Donc c'est un cas un peu spécifique. Mais vous avez, en République tchèque ou en Slovaquie d'ailleurs, beaucoup de gaz dans le secteur résidentiel.
Alors évidemment, il s'est passé l'invasion de l'Ukraine, ce qui a modifié profondément les relations entre la Russie et le reste de l'Europe. Et ça a profondément modifié aussi le commerce du gaz. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que de ces 40-45% de gaz qu'on importait en Europe, est-ce qu'on a coupé tous les robinets ? Quel est aujourd'hui, est-ce qu'il continue à y avoir du gaz russe importé en Europe ?
C'est vrai que cette agression par la Russie de l'Ukraine en février 2022 a complètement changé la donne sur les marchés gaziers, en tout cas pour notre sujet, hein, évidemment aussi pour tout le reste. Mais il ne faut pas voir cette date-là comme le début d'un arrêt complet des approvisionnements, etc. En réalité, évidemment, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a commencé il y a 10 ans, en 2014, contre l'Occident probablement un peu avant, 2011. Et dans notre affaire gazière, en fait, les Russes avaient commencé à réduire leur fourniture de gaz à l'Europe bien avant février 2022. En réalité, dès le mois de juin 2021, tout d'un coup, on a observé une baisse des flux russes vers l'Europe. Mais personne n'y a vraiment prêté attention. Cela dit, à partir du mois de mai, qu'est-ce qu'on fait ? On remplit les stockages gaziers pour l'hiver. Et donc, on continue de tirer beaucoup sur le gaz, y compris le gaz russe. Non pas parce qu'il y a autant de demandes qu'en hiver. La demande peut être multipliée par 3 ou 4 hein, pendant les périodes hivernales par rapport à une moyenne hors hiver. Mais en fait, pour emmagasiner du gaz dans les stockages et qu'on va commencer ensuite à soutirer à partir du mois d'octobre, novembre. Pourquoi ? Parce que, en fait, vu l'augmentation de la consommation en hiver, on ne peut pas dimensionner les canalisations, les infrastructures pour cette pointe de consommation. Donc, en fait, on tire plutôt sur les stockages et ça rend l'ensemble plus efficace. Et en fait, les Russes n'ont pas fourni les volumes attendus. Alors, ils ne se sont pas mis en position de violation contractuelle, mais vous savez, dans les contrats de long terme, vous avez certaines marges de manœuvre, à la hausse ou à la baisse, et ils se sont systématiquement mis à la baisse. Et donc, la conséquence a été que, finalement, on a moins mis de gaz dans les stockages, et les Russes contrôlaient une partie des stockages en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont laissé les Russes acquérir des stockages, qui sont quand même des outils stratégiques. Et les Russes n'ont pas rempli les leurs, et c'est quand même des capacités importantes, par exemple en Allemagne ou en République tchèque. Et puis par ailleurs, du coup, comment est-ce qu'on a compensé ce manque d'approvisionnement russe ? On a pris du GNL, donc il y a des bateaux qui sont disponibles, qui ont été achetés. Le GNL, c'est une industrie qui est plus flexible que celle du gaz par gazoduc. Et au fond, on arrive à l'hiver avec des prix qui commencent à être plus tendus, avec des stockages gaziers qui sont très peu remplis. Mais les choses se passent bien. Et tout d'un coup arrive effectivement le choc de cette invasion. Et là, les choses dans le gaz commencent à se tendre. Parce que là, les Russes commencent à réduire, là pour le coup, de façon supplémentaire, les fournitures à un certain nombre de pays en Europe centrale, qui sont toujours, en fait, les pays qui sont les plus anti-russes, entre guillemets, par exemple la Pologne, par exemple les Pays-Baltes, par exemple la République tchèque. Et donc, on commence à faire cela. Et en même temps, on sent qu'il y a de plus en plus de tensions avec les grands marchés traditionnels, la France, les Pays-Bas, moins la Finlande, mais en tout cas l'Allemagne, mais aussi d'ailleurs la Finlande. Et ce qui se passe là, c'est que donc, les approvisionnements commencent à vraiment se tendre. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui va se passer avec ces contrats de long terme ? Parce que quand vous avez un contrat de long terme, par exemple, vous êtes Engie, ou vous êtes E.ON Rohrgas en Allemagne, ou vous êtes OMV en Autriche, bien, ce qui se passe est absolument abject et choquant, mais vous êtes quand même obligé de tirer d'honorer votre contrat, parce que dans votre contrat, il n'est pas dit que si un jour la Russie viole toutes les règles du droit international et envahit un pays, vous avez le droit d'arrêter d'honorer votre contrat. Ça, évidemment, ça n'existe pas. Il y a des cas de force majeure sur lesquels on pourra revenir, mais en tout cas, il faut continuer d'acheter. Mais en fait, les Russes inventent tout un tas de subterfuges pour, réduire, voire couper les fournitures à un certain nombre de leurs clients. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'on est encore en plein hiver, il y a peu de gaz en stock, donc il y a peu d'alternatives. Et l'idée, c'est sans doute, côté russe, d'exercer un maximum de pression sur les pays européens pour qu'ils ne livrent pas d'armement à l'Ukraine, pour renforcer les difficultés économiques dans ces pays, pour retourner l'opinion contre l'Ukraine et en faveur de la Russie, et surtout pour en réalité paralyser ou compliquer les prises de décision en Europe à ce moment-là. Alors, ça marche dans le sens où les Allemands, vous vous souvenez, au début de la guerre, livrent des casques et je ne sais plus quoi, mais encore même que les casques n'étaient même pas de qualité requise, enfin, c'était absolument lamentable. Les pays européens sont largement paralysés parce que derrière, s'il n'y a plus de gaz alors que les stockages sont vides ou quasiment vides, ça veut dire que c'est l'économie qui va de fait probablement s'effondrer. Il va falloir passer un rationnement du gaz. Et surtout, c'est les prix du gaz qui explosent. Donc les Russes, quand bien même, ils vendent moins. En réalité, leurs revenus sont probablement multipliés par 3 ou 4. Et donc, ils nous étranglent. Ils étranglent l'économie européenne, mais au prix, de mettre en péril définitivement leur position de fournisseur à l'Europe. Et à l'été 2022, les choses sont clarifiées. En fait, les Russes ont par eux-mêmes coupé les approvisionnements par le Nord Stream. Ils ont coupé les approvisionnements par un gazoduc qui passe par la Pologne. Ils ont très largement réduit les approvisionnements par l'Ukraine. Donc, au fond, ils ont joué toutes leurs cartes et levé les masques, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils se mettaient en porte-à-faux de leurs obligations contractuelles et ils transformaient leurs approvisionnements gaziers en une arme géopolitique.
Si mes chiffres sont corrects, on est passé en gros en 2021 de environ 40% de gaz importé de Russie sur l'ensemble du gaz européen à 8% et 15% si on prend le GNL russe également. On a vu effectivement un emballement des prix à la fin 2022, à l'hiver 2022. À quel point le prix a grimpé et pourquoi aujourd'hui il est revenu à la normale, le prix du gaz? Parce que depuis 2023, grosso modo, le prix du gaz est revenu à quelque chose de très raisonnable.
Alors, vos chiffres sont tout à fait corrects. C'est-à-dire qu'on est passé à peu près de 155 milliards de mètres cubes de gaz annuel fournis par la Russie à l'Europe à 40 milliards de mètres cubes l'année dernière. Pour moitié, c'est du gaz naturel liquéfié. Pour moitié, c'est du gaz par pipeline. Et d'ailleurs, c'est une des situations inédites de cette guerre, puisque une partie de ce gaz est acheminée encore aujourd'hui à travers l'Ukraine. Et donc, Gazprom, tous les mois, envoie un virement à Naftogaz, l'entreprise ukrainienne qui transporte le gaz, donc en pleine guerre. Et Naftogaz transporte ce gaz vers l'Europe centrale. En 2022, on a eu encore, donc on est passé, en gros, si on voit l'escalier, on est passé de 155 milliards, 2022 à 80 milliards à peu près, parce qu'il restait encore du gaz pendant la première partie de l'année, à 40 milliards l'année dernière, et sans doute cette année, ça va être à peu près la même chose. Donc c'est quand même une diminution immense. Et au fond, votre question interpelle évidemment, c'est comment est-ce qu'on a réussi ce basculement vers d'autres sources de gaz et comment on a évité finalement, un, l'effondrement économique et deux, le rationnement sur les fournitures de gaz aux clients dans les différents pays européens. En fait, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que on a eu, les marchés fonctionnent, donc vous avez un signal prix. Les prix bondissent, explosent littéralement. Et donc, comme dans tout marché qui fonctionne...
Oui, juste par exemple, les prix ils sont passés d'une trentaine de dollars ou d'euros à 350.
Ça a fait x10, voire x15, effectivement. Bon, c'est dramatique, hein. x10, x15, c'est absolument épouvantable. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que donc c'est à double, il y a un double effet. C'est-à-dire le premier effet, c'est qu'évidemment dans le monde entier, quand vous avez ce type de prix, il y a tout un tas d'acteurs qui se disent mais il faut que j'aille vendre mon gaz en Europe. Donc ils se disent mais comment j'amène mon gaz en Europe? La deuxième chose, c'est effectivement quand vous avez ce type de prix, il y a tout un tas de consommateurs qui sont étranglés. Mais il y en a d'autres qui évidemment peuvent encore payer, mais qui vont chercher à soit répercuter à d'autres cette augmentation, soit vont serrer la ceinture, soit vont réduire leur marge, ou alors vont tout simplement arrêter de consommer ou réduire autant que possible leur consommation. Donc il y a eu la combinaison de tous ces effets. Donc pour le dire autrement, en fait, le marché du gaz naturel liquéfié, au cours des 10-15 dernières années, s'est très développé dans le monde. Il y a eu énormément de nouveaux bateaux mis sur les marchés, énormément d'usines de liquéfaction qui se sont construites. Et ces marchés-là sont en réalité très flexibles. il n'y a pas beaucoup de contrats, voire pas du tout de contrats sur 20-25 ans, comme c'est le cas traditionnellement avec des infrastructures lourdes type gazoduc qui parcourent 4000 km pour relier un fournisseur à un consommateur. Donc ce marché est très flexible et donc on a pu très rapidement rediriger des cargaisons vers l'Europe qui étaient destinées à d'autres pays. Et pourquoi ? Bah, tout simplement en surenchérissant et donc en payant plus. Et ces bateaux sont arrivés en Europe et on a en Europe des capacités pour accueillir et donc regazéifier ce gaz. Ça, c'est la première chose. Et bien sûr, il a fallu payer. Hein. Donc, il y a des consommateurs qui ont payé prix fort et il y a des fournisseurs qui, du coup, ont gagné beaucoup d'argent. Mais c'est la règle du marché. La deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'effectivement, avec ce prix du gaz qui a bondi, tout un tas de consommateurs, notamment dans l'industrie, ben ceux-là se sont dit, mais on ne va pas pouvoir payer. Donc, on essaie d'optimiser notre production pour consommer moins de gaz à production égale. Et puis, quand on n'y arrive pas, ben on va arrêter de produire. Et donc, on a eu l'industrie de la pétrochimie, la production d'engrais, une partie de la production de verre qui s'est tout simplement mise à l'arrêt en Europe. Et ça, en réalité, c'est d'immenses besoins, tout d'un coup, qui disparaissent. Et donc, ça réduit vos besoins d'importation en gaz. Et puis, bien sûr, et je suis sûr qu'une grande partie des auditeurs en ont été concernés, eh bien, vous réduisez votre consommation de gaz. Alors, en France, on est dans une situation particulière parce qu'on a été très peu exposé, en fait, à ces prix qui ont littéralement explosé. Mais je peux vous dire qu'au Royaume-Uni, je peux vous dire qu'en Allemagne, dans tout un tas de pays en Europe centrale, la situation pour les consommateurs résidentiels a été bien différente de la nôtre. Nous, on a connu, avec le tarif réglementé, peut-être 15-20% de hausse. Eux ont connu 200-300%, 400% de hausse. Donc là, la question au Royaume-Uni, pour des millions de familles, c'était clairement je me chauffe ou je remplis mon frigidaire et ça à partir, en gros, du 10e jour du mois, pas au 25e jour. Donc les situations étaient très tendues. Mais en France, on a été évidemment très protégés. Non pas qu'on était dans une situation exceptionnelle, mais que, en fait, les coûts de ces crises ont été absorbés par les fournisseurs, par EDF, et puis par, in fine, l'État. Donc, ça va se retrouver quelque part, hein, bien sûr, on pourra en reparler. Mais, et donc, en fait, ce mouvement-là de basculement s'est fait en 6 mois, et les États membres ont aussi forcé la main en disant aux acteurs du marché, pour l'hiver prochain, donc pour l'hiver 2022-2023, on vous oblige dans toute l'Europe à remplir les stockages de gaz. Alors, c'était une bonne idée en soi parce qu'il était hors de question d'arriver avec des niveaux de stockage très peu satisfaits. Ça aurait été très dangereux. Mais d'un autre côté, si tout le monde se met à acheter du gaz au même moment pour stocker, évidemment, ça fait encore bondir davantage les prix. D'autant plus que pour les États, c'était une situation de sauf qu'il peut coûte que coûte. Donc, les États ont donné des lignes de crédit aux traders pour qu'ils achètent du gaz, quel que soit le prix, sur les marchés. Et il fallait sauver les économies. Et donc, ça a sans doute aussi amplifié ces mouvements à la hausse des prix. Donc là, il y a eu sans doute des ratés. Mais le résultat final, c'est qu'on n'a pas eu, et c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a eu une vraie coordination européenne et qu'on n'a pas eu de crise physique d'approvisionnement. On a eu une crise de prix qui a coûté cher aux économies, mais on n'a pas eu de crise physique des approvisionnements grâce à cette concertation européenne et parce que le marché a fonctionné et malheureusement aussi parce que la demande de gaz a été sabrée, il faut bien le dire.
On va revenir justement sur ce basculement, le basculement massif au GNL les différents fournisseurs européens. Quelle a été la conséquence, vous en avez un peu parlé, sur l'outil industriel en Europe. Et moi, je me souviens, il y avait des usines, par exemple de l'agroalimentaire, qui se sont mis à fermer en décembre 2022 parce que les coûts du gaz étaient trop élevés. Vous avez parlé des engrais qui se sont arrêtés ou de la chimie qui ont arrêté leurs usines. Quelle est la conséquence aujourd'hui de cette crise gazière sur l'outil industriel ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont fermé ? Est-ce que les entreprises sont en train de modifier leur outil de production ? Est-ce qu'elles pensent à délocaliser ? Comment l'outil industriel s'est adapté ?
Je crois que c'est malheureusement un peu tout cela. Mais il faut évidemment distinguer les secteurs et sans doute aussi les pays. Et puis ensuite, évidemment, je vais aussi vous expliquer pourquoi effectivement maintenant les prix du gaz sont retombés et ce que ça implique. En effet, vous avez différents secteurs industriels et vous avez des secteurs où le gaz représente une part prédominante dans le prix de production, dans le coût de revient d'un bien. Dans l'électricité, c'est l'aluminium. L'aluminium, c'est de l'électricité solidifiée, si vous voulez. Dans le gaz, les engrais, l'ammoniac, par exemple, 80% du coût de l'ammoniac, c'est le prix du gaz. Donc, quand le prix du gaz est bas, le coût de l'ammoniac est bas. Le coût de production, quand le prix du gaz est élevé, effectivement, c'est cela. Pour oui, l'agroalimentaire...
Petite parenthèse, oui. Pardon, l'ammoniac, les engrais de synthèse, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour la souveraineté agricole aujourd'hui, vu le fonctionnement de notre modèle agricole.
Absolument. Alors, il y a d'autres formes d'engrais. Vous avez de la potasse, par exemple, mais malheureusement, l'autre grand fournisseur de potasse, c'est la Biélorussie. Donc, ça pose évidemment d'autres problèmes, puisque c'est l'allié des Russes. Mais en effet, l'ammoniac, comme engrais de synthèse, c'est hyper important pour notre souveraineté agricole et alimentaire. Et alors, dans l'industrie agroalimentaire, le problème, c'est que, par exemple, dans tout un tas de pays, on chauffe les serres avec des chaudières à gaz, en fait, des petites chaudières. Et donc, du coup, pour en gros faire produire des tomates aux Pays-Bas en hiver, ça coûtait 10 fois plus. Et donc, effectivement, ça a posé des vrais problèmes. Mais on peut multiplier ainsi les exemples. Donc, ce qui s'est passé, c'est que toute l'industrie primaire très énergo-intensive, celle-là, évidemment, a le plus souffert. Alors, il y a eu des très bons réflexes. Il y a des entreprises qui ont réussi à optimiser leur production. On devient très créatif. Hein. On se dit, tiens, cette vieille machine que j'utilisais quand même, qui finalement a un impact marginal sur ma production totale, je la ferme. Et je me concentre sur les autres qui sont beaucoup plus modernes, etc. Quitte à peut-être produire un peu moins. Ou il y en a qui ont réussi à passer, par exemple, à de la biomasse, parce qu'elles avaient une chaudière à la biomasse, et donc réduire cela. Mais le vrai problème dont on n'a pas encore parlé, c'est que, en fait, cette crise du gaz, des prix du gaz, a contaminé le secteur électrique. Et donc, on est arrivé aussi par ricochet à une crise du secteur électrique, une crise des prix, hein, mais aussi, malheureusement, en France... crise de la production, puisqu'on a eu au même moment un double phénomène. Le premier, c'est qu'on avait tout un tas d'opérations de maintenance sur le parc nucléaire qui arrivaient en gros au même moment. C'est ces fameuses visites décennales. Donc pendant une visite décennale, vous fermez la centrale pendant 4, 5, 6, 7 mois. Et puis, on a eu le phénomène de corrosion sous contrainte. Donc ça a été découvert par hasard, entre guillemets. Enfin, grâce à ces inspections approfondies. Et là, quand vous en trouvez un sur un réacteur, vous regardez sur tous ceux qui ont été construits dans la même série au même moment. Et évidemment, vous trouvez le même problème sur tout cela. Et on a eu aussi un dernier problème, c'est qu'on avait encore toutes les conséquences de la période de la pandémie, où, évidemment, qui a beaucoup perturbé les activités industrielles et de maintenance, etc. Et donc, tout s'est cumulé et on a eu un pic malheureusement, d'inactivité du parc nucléaire qui était sans précédent et qui est venu s'ajouter à tous ces problèmes-là. Donc, on a eu une explosion des prix de l'électricité. Pourquoi aussi ? Parce que faut bien comprendre que pour assurer la sécurité des approvisionnements dans toute l'Europe, c'est un maillage interconnecté, hein, ce réseau électrique, eh bien, le prix est fixé sur la dernière centrale qui est appelée pour assurer l'équilibre du système. Et cette dernière centrale, c'est la plus flexible, c'est donc la centrale à gaz. Et donc, pour que cette centrale à gaz veuille bien produire, quand on lui demande, il faut bien sûr qu'elle rentre dans ses coûts et que donc, ses coûts, elle, c'est le gaz naturel. Et que donc, en réalité, ses coûts sont alignés sur les prix du gaz naturel. Parce que, quel que soit le nombre d'heures qu'elle tourne, on sait combien coûtent les employés, on sait combien coûte la maintenance, mais le seul facteur qui varie, c'est le prix du gaz. Et donc, effectivement, les prix du gaz dans toute l'Europe ayant bondi, les prix de l'électricité ont eux aussi connu les mêmes pointes extraordinaires. Et donc, les industriels ont été en réalité pris dans un étau, mais tout comme les autres consommateurs, entre l'électricité et le gaz, avec effectivement des conséquences très difficiles. Alors, on a eu l'inflation, on a eu des industriels qui ont réussi à passer leur surcoût de production dans le prix de leurs produits, et donc ça a nourri cette inflation-là, mais eux ont réussi à maintenir leur marge. On a eu ceux qui ont réussi à optimiser leur production, et puis on a ceux qui ont souffert, et ceux-là, malheureusement, on peut aujourd'hui se dire que, oui, l'Europe, à cause de ces chocs, à cause de ces crises, va sans doute perdre une partie de sa production primaire de biens énergo-intensifs. Parce qu'elle est parfaitement substituable. Vous pouvez remplacer votre ligne de production qui est en Europe avec une ligne de production au Texas, avec une ligne de production au Maroc, en Égypte, en Arabie Saoudite, où vous voulez. Au fond, ça n'a peu d'importance. Et donc, c'est ça un peu notre menace actuellement. Mais alors, les prix sont retombés.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple, justement ?
Oui, bien sûr. Par exemple, prenons l'exemple de l'ammoniac. Alors, les prix du gaz sont retombés parce qu'on a eu beaucoup moins de demandes, parce qu'entre-temps, les marchés sont très approvisionnés dans le monde, parce que tout le monde s'est précipité pour aller accélérer son chantier d'usine de gaz naturel liquéfié, etc. Et donc, on a eu beaucoup d'approvisionnement. C'est vrai qu'on a réatteint l'équilibre qui nous est beaucoup plus favorable, et sur l'électricité et sur le gaz, parce que sur l'électricité aussi, par ailleurs, les centrales d'EDF sont très largement reparties. On a beaucoup plus de production d'électricité renouvelable. Et il faut le rappeler, encore une fois, la demande est en baisse, là aussi, sur l'électricité. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi pour les industries ? Ça veut dire que vous avez, par exemple, des grands groupes internationaux qui opèrent dans 15-20 pays et qui ont des usines de production d'engrais dans 15-20 pays. J'en cite une, par exemple, c'est Yara. Yara, c'est un des leaders mondiaux. C'est une entreprise norvégienne. Eh bien, eux ont des usines un peu partout en Europe et dans le monde, mais logiquement, ce qu'ils font, c'est qu'ils réduisent leur production en Europe, qui coûte trop cher, et ils maximisent leur production ailleurs. Lorsqu'ils réfléchissent à des investissements, puisqu'une entreprise a un budget annuel d'investissement, eh bien, évidemment, ils n'investissent plus en Europe et ils concentrent leurs investissements dans d'autres pays, et typiquement au Brésil, typiquement aux États-Unis, là où évidemment, l'énergie est moins chère, là où vous avez quand même des vraies perspectives de décarbonation et où vous avez des infrastructures qui vous permettent ensuite d'acheminer ces mêmes biens par bateau en Europe.
Est-ce qu'on a peur que les prix du gaz se remettent à exploser comme ça a été le cas en 2022 ?
En fait, on a du coup, ces crises ont révélé un ensemble de problèmes et de faiblesses structurelles de l'Europe. Premier problème, c'est qu'on a une pression fiscale, ou premier défi, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est un vrai défi. On a une pression fiscale sur les entreprises qui est très élevée. Deuxième défi, c'est qu'on a une pression réglementaire très très forte, à tous les points de vue. Troisième défi, c'est qu'on a effectivement un coût de l'énergie très élevé. Et on est sur des marchés qui produisent des biens qui ne nécessitent pas de technologie particulière, de savoir-faire particulier, etc. C'est des choses que vous pouvez parfaitement produire partout dans le monde. La seule question, c'est celle qui va nous préoccuper de plus en plus, c'est l'empreinte carbone. Mais si on peut décarboner cette production ailleurs, à moindre coût, autant le faire ailleurs. Voyez ? Et donc, en fait, l'Europe, elle est là, dans cet étau, et c'est une situation, évidemment, très préoccupante, parce que certains considèrent que c'est une très bonne façon de décarboner, puisque de fait, on ne produit plus, donc ça va nous faire baisser les émissions. Mais en fait, ces industries sont stratégiques parce qu'elles nourrissent des chaînes de valeur, parce qu'évidemment, il y a de l'emploi qui est consacré, et parce qu'elles elles sont intégrées dans des circuits, dans des chaînes de valeur, qui, elles, évidemment, en bout de chaîne, ont une valeur ajoutée bien supérieure. Et donc, pour le dire autrement, est-ce qu'on peut se dire qu'importer maintenant tout notre ammoniac des États-Unis, du Canada ou d'Arabie Saoudite, c'est une bonne chose ? D'un point de vue prix, d'un point de vue logistique, on peut parfaitement le faire. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ça veut dire que notre balance commerciale va se détériorer. Donc, ça veut dire que si on cumule tout cela, l'euro va s'affaiblir. Ça veut dire qu'on aura moins d'emplois. Ça veut dire que le jour où on a des problèmes sur la logistique, eh bien, ces biens n'arriveront plus. Et ça veut dire qu'effectivement, on va devenir à la merci d'autres pays. Alors, il y en a qui sont tout à fait sympathiques et qui sont dans l'OCDE, avec lesquels on est allié, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Et donc, évidemment, ça peut poser aussi un certain nombre d'interrogations stratégiques. Mais aujourd'hui, le vrai risque, on a encore du mal à le quantifier parce qu'il faudra qu'on regarde dans 5 ans en réalité. Mais on sait déjà qu'un certain nombre d'investissements ont été gelés. On sait déjà qu'un certain nombre d'acteurs réfléchissent à des plans de délocalisation de leurs infrastructures de production. Et on sait déjà, et ça on le voit avec des chiffres très précis, que bah, notre production en Europe d'acier, d'aluminium, d'ammoniac, de verre et d'un certain nombre de biens comme ça est en baisse.
Évidemment, donc on est passé, vous en avez parlé, on est passé largement au GNL, au gaz liquéfié. D'où vient ce gaz Comment ont réagi les producteurs Je pense notamment aux États-Unis, mais je pense aussi aux autres producteurs de gaz en Europe. 30% du gaz vient de Norvège, à peu près 15% vient d'Afrique du Nord. Voilà. Comment on a réussi à mobiliser nos fournisseurs pour avoir du gaz et se passer du gaz russe?
Alors, c'est avant tout le marché qui a réagi. Donc, la Norvège, effectivement, un grand fournisseur traditionnel de l'Europe. Les Norvégiens, par ailleurs membres de l'OTAN, évidemment, ils ont voulu saisir l'opportunité économique, donc d'essayer de vendre plus de gaz à l'Europe. Et puis, évidemment, ça tombait bien parce que, quand bien même, ça leur ouvrait des perspectives de revenus supplémentaires, en même temps, ça permet d'expliquer qu'on répond aux sollicitations de nos alliés. Donc, qu'ont fait les Norvégiens ? Ils ont accéléré la mise en production d'un certain nombre de champs. Ils ont essayé de booster la production des champs existants. Puis, vous savez, la production de pétrole et la production de gaz, elle est très liée dans la plupart des pays du monde. Donc, ça veut dire qu'en Norvège, eh bien, pour produire du pétrole, on réinjecte aussi du gaz dans les gisements pour augmenter la pression dans le gisement et sortir plus de pétrole. Et donc là, ils ont fait un choix stratégique de produire moins de pétrole et plus de gaz. Donc, c'est-à-dire de moins réinjecter de gaz dans les gisements de pétrole et plutôt d'utiliser ce gaz pour la fourniture de l'or. Puis on a eu de la chance parce que les Norvégiens avaient une usine de gaz naturel liquéfié qui avait connu un incendie il y a 2 ans et finalement ces travaux-là sont arrivés à bout et donc cette usine a redémarré au bon moment. Maintenant, le sujet qu'on a avec la Norvège, c'est que clairement, ils ont gagné des sommes extraordinaires avec cette situation de crise. Donc, ce n'est pas de la philanthropie. Hein. Ils ne nous ont pas fait de cadeaux. Tout ça a été payé, argent comptant. Et une grande partie des revenus de ces ventes d'hydrocarbures en Europe sont alloués à leur fonds souverain. Et ce fonds souverain-là, lui, où est-ce qu'il investit ? Ben, en grande partie en Amérique du Nord et pas assez en Europe. Or, est en droit d'attendre ou ce qu'on devrait attendre d'un pays comme la Norvège qui se veut à la pointe de la transition énergétique, qui est un grand allié, eh bien c'est qu'effectivement, elles viennent ensuite abonder en investissant davantage sur le continent, dans les technologies bas carbone, etc. Et ça, on peut regretter que ce ne soit pas assez le cas. L'autre grand pays, effectivement, qui a bénéficié et dont on a bénéficié, c'est les États-Unis. Alors, ce qui s'est passé là, c'est que l'industrie du GNL américaine, celle-là a exporté jusqu'alors très largement en Amérique latine, en Asie, très très loin, sur de longues distances, etc. Eux ont vu ce besoin soudain de gaz naturel liquéfié en Europe comme une aubaine. Pourquoi ? Parce que, en fait, la durée du voyage pour un méthanier qui quitterait le golfe du Mexique, donc les terminaux dans le golfe du Mexique vers l'Europe, elle est de quelques jours, alors que quand ces mêmes méthaniers doivent aller en Asie, en gros, le temps de voyage, c'est 2 à 3 fois supérieur. Donc, il faut faire l'aller-retour. Donc, en termes de flux logistique, c'est une optimisation. Ensuite, évidemment, il y a eu l'aubaine des prix, puisque au lieu de vendre leur cargaison comme avant la guerre, on va dire, à 20 ou 25 euros du mégawattheure, tout d'un coup, ils pouvaient la vendre 10 fois plus en Europe. Donc, évidemment, tout un tas de fournisseurs américains ont gagné énormément d'argent en redirigeant ces flux-là. Et alors, ce qu'on a fait en Europe, pour pouvoir importer encore plus de GNL, c'est qu'on est allé chercher tout un tas de ce qu'on appelle des plateformes flottantes de regazéification. Donc en fait, au lieu d'avoir une infrastructure fixe qui prend 3, 4, 5 ans à être construite, alors qui bien sûr a de grosses capacités, on est allé chercher ces barges qu'on est allé amener en Europe. Elles ont des capacités faibles, mais elles peuvent être acheminées et branchées sur les réseaux très rapidement. En gros, il faut quoi ? Il faut un contrat pour récupérer la barge, il vous faut un gazoduc et une jetée pour que les bateaux puissent ensuite s'y arrimer, donc, et puis un tirant d'eau dans les ports suffisant pour ramener ce type de navire. Et donc, on en a ramené une dizaine en Europe très rapidement. Et ces infrastructures-là ont permis aussi d'accueillir beaucoup plus de GNL et des endroits différents, là où peut-être il n'y en avait pas assez, par exemple en Allemagne, typiquement, mais aussi aux Pays-Bas pour renforcer ça. En France, on en a récupéré une au Havre qui fonctionne actuellement. Et ça a permis de ramener beaucoup plus de GNL aussi chez nous. Au prix fort, hein, faut le rappeler, mais la molécule était là, le gaz était là.
Dernière question, pour ceux qui, parce qu'il y a encore pas mal de sujets qu'on aurait pu explorer, le déclin de la production de gaz, par exemple dans la mer du Nord, le sous-investissement de nos partenaires, par exemple l'Algérie dans les infrastructures. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, comprendre ces questions gazières, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Est-ce qu'il y a des livres ? Est-ce qu'il y a des documentaires ? Est-ce qu'il y a des documents à consulter sur ces questions-là ?
Oui, bien sûr. Alors, évidemment, vous me tordez la perche. Donc, un peu de pub pour nos travaux au Centre énergie et climat de l'Institut français des relations internationales, www.ifri.org. Allez voir la page du site du Centre énergie et climat et vous y trouverez des publications, notamment sur le gaz naturel et dans la crise. Et puis plus généralement sur les dimensions stratégiques des transitions énergétiques. Je vous invite aussi, bien sûr, à regarder les travaux de l'Agence internationale de l'énergie, qui fait des rapports très détaillés, très complets, parfois un peu techniques, hein, si vous n'êtes pas passionné ou forcément du secteur, mais sur ces enjeux gaziers. Et puis, il y a des bouquins très intéressants qui visent un public plus large. Regardez en librairie actuellement un collègue de l'industrie, Didier Hollot, qui a par exemple publié un livre sur les géopolitiques du gaz. Il y en a un autre, par exemple, sur le Nord Stream, qui est intéressant à lire aussi, qui passionnera sans doute les uns et les autres sur ces explosions. Et d'une manière générale, si on veut s'informer aussi sur finalement cette industrie, elle a ses associations et évidemment aussi sur le biométhane, etc. Donc il y a l'Association française du gaz. Mais aussi, si vous n'êtes pas forcément convaincu en fait de l'utilité, allez voir les ONG qui souvent aussi mènent des travaux pour alerter sur un certain nombre de problèmes liés à cette source d'énergie. On a évoqué les émissions fugitives de méthane. Mais quand même, là, pour peut-être juste encore en un mot, je crois qu'on est sorti des crises. Je crois que ça, c'est très important de le rappeler. La situation reste quand même très volatile parce qu'on est dans un monde où il y a une guerre majeure en Europe, une guerre au Moyen-Orient, d'autres conflits qui peuvent à tout moment jaillir avec des risques sur les détroits, par exemple Hormuz, ou là, en l'occurrence, Bab el-Mandeb, mais aussi Malacca. Donc la situation reste très volatile, mais dans l'ensemble, le pire est derrière nous, on en est sorti. Il y a tous ceux qui, évidemment, voient le tarif réglementé qui a augmenté ça. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'en France, on était quand même beaucoup plus protégés qu'ailleurs, je peux vous le dire. Et la deuxième chose, c'est qu'en réalité, d'une manière générale, on ne peut pas faire cette transition avec des prix d'énergie bas comme ils étaient pendant 10 à 15 ans. En gros, on a vécu au-dessus de nos moyens, ou en tout cas, on a sous-payé notre énergie. Donc, le moins consommer d'énergie, essayer de l'optimiser autant que possible. Et c'est une solution. Et puis, inévitablement, il faudra payer plus pour permettre les investissements dans les sources alternatives.
Marc-Antoine.